الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. فقلنا أن هذه السورة العظيمة المباركة مليئة بالفوائد، ومليئة بالدروس، ومليئة بالنفائس، ومليئة بالهدايات. فنتوقف من بعض هذه الهدايات ونواصل إلى ما توقفنا بالأمس بفضل الله جل وعلا. Donc nous avons vu que cette sourate, qui est sourate Al-Fatiha, est la sourate la plus importante du Coran. C'est la sourate la plus importante du Coran. Et que cette sourate, elle contient énormément de leçons, énormément de bénéfices et de mérites et de bonnes choses à en tirer et de guider. Et lorsque le musulman médite sur cette sourate bénite et sur cette sourate magnifique, cela va avoir une influence énorme sur sa vie. Cela va avoir une influence énorme sur sa religion. Cela va avoir une influence énorme sur son au-delà. Donc on reprend où est-ce qu'on s'était arrêté hier. Donc on était dans la cinquième leçon, qui était la mise en garde ou la prudence contre le fait de sortir du droit chemin. Contre le fait de sortir du droit chemin. Et on avait vu que le prophète alayhi salatu wasalam et Allah tabaraka wa ta'ala et ensuite le prophète alayhi salatu wasalam nous ont informé que Shaytan voulait absolument faire sortir l'être humain du droit chemin. Donc on s'est arrêté là et on continue. واسمع في هذا المقام متأملا متدبرا قول الله تبارك وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ماذا يريدون أن تميلوا ميلا عظيما أي أن تميلوا عن صراط الله المستقيم وعن الجادة السوية. Donc on avait vu, on s'était arrêté sur ce verset qui est un verset très important. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous informe, il nous dit dans le sens du verset, et Allah azza wa jal veut pour vous, il veut vous accueillir, il veut accueillir pour vous le repentir. Voilà ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala il attend de nous. Allah azza wa jal, il t'appelle à te repentir. Et lorsque tu médites sur le Coran, tu vois qu'Allah tabaraka wa ta'ala a appelé les pires des êtres humains à se repentir. Les pires des êtres humains. Des gens qui ont assassiné des prophètes. Que veux-tu faire de plus grave dans cette vie que de tuer un prophète? Ils ont tué des prophètes. Allah tabaraka wa ta'ala, ces gens-là, il les appelle au repentir. Et si ces gens-là se seraient repentis, Allah Azza wa Jalla leur efface leur péché. Et quel péché ils ont fait. Donc ça, ce point-là, on se doit de le prendre déjà pour nous. Peu importe ce que tu as pu faire dans ta vie. Peu importe ton passé. Peu importe ce que tu as fait. Je jure devant Allah Azza wa Jalla que tu n'as pas fait quelque chose de plus grave que de tuer un prophète. Tu n'as pas. Peu importe ce que tu as fait, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla veut de toi? Wallahu yurid an yatuba alaykum. Il veut que tu te repentes. Allah Azza wa Jalla, il veut pour toi que tu ailles au paradis. Mais pour aller au paradis, il t'appelle au repentir. Donc regardez le repentir. Et lorsque on parle à nos frères, à nos sœurs, à nos cousins, à nos cousines, aux gens que l'on croise dans la rue, dans le quartier, à l'école, à l'université, au travail, peu importe, on se doit d'informer. On se doit d'informer notre entourage sur le repentir. Parce que certaines personnes, Shaitan leur met un voile et ils disent « Ah, moi je peux pas prier parce que je fais ça. Et moi ce que j'ai fait, je préfère pas te raconter mon passé. Si tu savais ce que j'ai fait, moi je peux pas prier, je peux pas venir à la mosquée, les gens vont me regarder, etc. 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 » Tant bien ils pensent comme cela. À ces gens-là, parle-leur du repentir. Si tu as l'occasion de parler à ces gens-là, aux gens qui ne prient pas, aux gens qui ne fréquentent pas les mosquées, aux gens qui traînent, qui zonent dans les quartiers, etc. Parle-leur qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut de toi que tu te repens. Et si tu te repens, Allah tabaraka wa ta'ala t'efface tous tes péchés. Au moment où tu te repens, il t'efface tous tes péchés. Donc Allah azza wa jal veut pour vous le repentir. Et ensuite Allah tabaraka wa ta'ala il dit وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ. Mais ceux qui suivent leur passion, est-ce qu'ils veulent pour toi que tu te repentis? Non. Qu'est-ce qu'ils veulent? أَنْ يَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. Ils veulent que tu t'inclines grandement, que tu dévies dans l'erreur. C'est-à-dire, ils veulent que tu sors du Sirat al-Mustaqim. Ils veulent que tu sors et que tu dévies du droit chemin. بحيث لا يبقى ذلك منحصرا فيهم فقط. Et on avait expliqué que celui qui commet un péché, lui veut absolument que tout le monde commet le même péché que lui. Celui qui boit de l'alcool, s'il serait le seul dans le quartier à boire de l'alcool, il n'y a que lui. Tout le monde le regarde comme ça, en lui disant, mais t'es un imbécile. Imaginez qu'il serait tout seul. Subhanallah, il se sentirait mal. Mais si tout le monde dînait comme lui, tout le monde dans le même coin, tout le monde dans le même endroit, la base. Si le voleur, il serait seul à voler. Si celui qui fraude, il serait le seul à frauder. Si celui qui ment, il serait le seul à mentir. Subhanallah, il se sentirait mal. Mais celui qui ment, il veut que tout le monde ment avec lui. Celui qui vole, il veut que tout le monde vole avec lui. Comme la parole de Uthman ibn Affan que l'on a cité hier et on s'était arrêté sur ça. Waddati zaniya law zanat an-nisaa jami'a. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, il dit la fornicatrice aimerait que toutes les femmes forniquent comme elle. C'est ça. C'est exactement dans le même sens que l'on a cité. Limadha? لأن من يقع في حبائل الشهوات ويتولث بلوثتها لا يريد أن يكون وحيدا في مجتمعه فريدا في قومه بل يريد من غيره أن يكون معه على نهجه ولهذا ينشط في غوايات من هو سالم لجره والميل به إلى سبيل الشهوات. Car celui qui est pris dans l'emprise des passions, celui qui est pris par le piège des passions, et celui qui est pollué et qui est souillé par ses passions, eh bien lui il ne veut pas être le seul du peuple, le seul dans la société à être souillé et à être pollué comme lui. Donc qu'est-ce qu'il veut? Il veut que toi aussi tu tombes dans le même péché que lui. Et celui qui se précipite et qui est actif dans les séductions ou dans les plaisirs qui nous sont interdits, il veut absolument que celui qui est préservé de cela, que celui qui est préservé d'être tiré par ses passions, il veut absolument qu'il soit tiré vers le chemin des passions. وَمِنْهُنَا أَخَذُوا وَلَا سِيَّمَا فِي زَمَانِنَا هَذَا يَتَفَنَّنُونَ بِعَرَضٍ وَسَائِلِ الشَّهَوَاتِ واصطياد الناس وابتزاز أموالهم وإيقاعهم في حبائل الشهوات المحرمة واللذائذ الباطلة التي نهى الله تبارك وتعالى عباده عنها وحذرهم منها. Et comme nous l'avons cité hier, encore plus dans nos époques, à partir de cela, on peut voir tout ce qui est dans notre vie, autour de nous, tous les pièges qui nous sont tendus. Comme on a cité hier, les gens se concurrencent. Ils se concurrencent pour te ramener dans le haram. Ils se concurrencent pour escroquer ton argent, pour que tu ne dépenses plus ton argent fi sabilillah, mais pour que ton argent est dépensé fi sabili shaytan. Et lorsque tu réfléchis, tu allumes la télé, regarde tous les pièges. Tu dis khlas, regarde pas la télé. Ok. Tu allumes le téléphone, le piège. Tu allumes la tablette, le piège. Tu laisses ton enfant sortir dehors, tu dis non, j'ai peur, il va prendre des gros mots, etc. Mon enfant, il reste chez moi. Masha'Allah. Mais il reste où chez toi? Dans sa chambre avec une tablette, avec la Wi-Fi connectée, automatiquement. Toi, tu es peut-être en bas, en train de lire le Coran, et ton enfant est en haut, il est chez toi. Mais en fait, il est dans le monde entier. Tous les poubelles du monde entier arrivent dans ta maison. Si toi, si tu ne contrôles pas ceux qui regardent, si tu ne contrôles pas ceux qui regardent. À l'école, les pièges. Dans le métro, on ouvre un journal. Regardez comment, autour de notre vie, les gens se concurrencent. Pourquoi ? Le seul but, c'est quoi ? C'est que tu dévies du droit chemin. Comme le verset nous le cite. Donc le musulman, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit aller, on doit habiter dans une montagne tout seul, on ne fait plus rien. Non, c'est pas ça que l'on dit. Ce que l'on dit, c'est d'être prudent. C'est d'être prudent. Premièrement, que tu prennes conscience de cela. Parce que la plupart d'entre nous, on n'en a même plus conscience. C'est devenu normal. Il faut dire les choses comme elles sont. Première chose, c'est que tu es prudent sur cela. Et lorsque tu vas être prudent, tu vas mettre un bouclier. Deuxièmement, c'est surtout dans l'éducation de tes enfants. Dans l'éducation de tes enfants. Comment tu éduques tes enfants? Est-ce que tu fermes les yeux? Et on verra quand il y aura 18 ans, on discutera. Non. Tu te dois. Certes, c'est fatigant. Certes, c'est pas facile. Certes, ça demande de la patience. Certes, tu travailles, tu es fatigué. Il n'y a aucun problème. Mais après, c'est tes enfants. Tu es responsable de tes enfants. Yawm al-Qiyamah, au jour de la résurrection, tu devras rendre des comptes sur tes enfants et pas sur les enfants des voisins. Et pas sur les enfants des autres, mais sur tes enfants à toi. Donc le musulman se doit de prendre garde sur l'éducation de ses enfants. Et de ne plus fermer les yeux et de laisser les choses. Ah, si Allah veut le guider, il va le guider. Non, on n'a pas besoin que tu nous le dises, ça. Mais Allah Azza wa Jalla, il attend de toi que tu fasses les causes. Allah Azza wa Jalla, il attend de toi que tu fasses les causes. Lida, yajibu ala al-abdi an yakuna ala hazar min al-ma'asi wa min al-athan wa min al-dukhuli fima yughdibu rabb al-azim jalla jalalu. Et c'est pour cela que le musulman doit être prudent. Doit être prudent quant au fait de tomber dans les péchés. Quant au fait de tomber dans les péchés et dans les désobéissances. Et le musulman doit être prudent quant au fait de faire des choses qui vont encourir la colère d'Allah Azza wa Jalla sur toi. Une chose, une parole, comme on l'a cité dans la khutba, une parole qui sort de ta bouche, toi tu n'en prends même pas conscience. Une médisance que tu vas sortir de ta bouche. Toi, pour toi, c'est... Tu t'en es même pas rendu compte que tu viens de médire sur ton frère ou sur ta sœur. Une médisance qui sort de ta bouche, cela peut te faire encourir la colère d'Allah Azza wa Jalla jusqu'au jour de la résurrection. Allah tabaraka wa ta'ala se met en colère contre toi jusqu'au jour où tu vas le rencontrer. Une parole, un regard, un geste. Donc le musulman se doit de craindre Allah tabaraka wa ta'ala et surtout dans sa langue. Et surtout dans sa langue. Wa hadhihi sura al-mubaraka tahdika bi'idhnillahi jalla wa ala ila al-bu'di min hadhihi al-radha'il. كما قال الله تبارك وتعالى فهنا هذه النقطة وهذه الفائدة لا بد من التركيز لأنها عظيمة ومهمة. يقول الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهنا نسأل، الصلاة تنهى يعني تبعد عنك من الفحشاء يعني من المعاصي. وإذا تتأمل تقول أن بعض الأشخاص يصلون معنا لكن يسرقون ويزنون ويكذبون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهو يصلي ويكذب، فهو يصلي ويسرق، فهو يصلي، فيه مشكلة. فسنفهم وسنشرح وسنبين الآن ما هي المشكلة، ما هي المشكلة. فتأملوا جيدا، ركزوا معي من فضلكم، سنستفيد كثيرا من هذه الفائدة العظيمة. Et là, on va évoquer un point. On va aborder un point qui fait partie des points qui m'ont le plus étonné dans ce livre. C'est un point qui est très très important. Et on se doit vraiment de se concentrer et de suivre l'explication et de suivre le raisonnement ensemble. Lorsque la personne, ou on va rentrer dedans, cette sourate bénite, qui est sourate al-Fatiha, elle va te guider. Toi, qui la récites, elle va te guider vers l'éloignement des péchés. Vers l'éloignement des péchés. Et Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il dit, Inna salah, certes la prière, tanha anil fahsha'i wal munkar. Certes la salat te préserve des mauvaises choses et des turpitudes. Il y a des turpitudes et du blâmable. Certes, la prière te préserve des turpitudes et du blâmable. D'accord. Mais quand on réfléchit, il y a des gens qui prient et qui volent. Il y a des gens qui prient et qui forniquent. Il y a des gens qui prient et qui invoquent autre qu'Allah. Il y a des gens qui prient et qui se battent pour autre qu'Allah. Il y a des gens qui prient et qui commettent des crimes. Comment on fait? Le verset Inna salah, certes la prière, préserve, tanha, anil fahsha et wal munkar. Préserve de la turpitude et du blâme. Pour comprendre cela, on va avoir un raisonnement qui est très important dessus. As-salah, ma huwa أعظم أركانها، ما هو أعظم أركان الصلاة؟ الفاتحة. الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر أعظم أركانها سورة الفاتحة. سورة الفاتحة. Premier raisonnement, c'est que cette prière qu'Allah عز وجل nous explique, nous dit qu'elle te préserve du blâmable et des turpitudes, cette prière, son pilier le plus important, c'est quoi? C'est surat al-Fatiha. Il n'y a pas un pilier plus important que surat al-Fatiha. Premièrement. وَكَمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدُوسِ سَنَقْرَ هَذَا الْحَدِيثِ. Et pour comprendre encore mieux cela, on va lire un hadith. Un hadith divin. Et dans ce hadith, vous allez essayer de trouver le lien entre ce verset, Inna salah, tanha anil fahsha wal munkar, et la Fatiha. Vous allez essayer de trouver le lien, inshallah. An Abi Huraira, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala Allah ta'ala, qasamtu salah, بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. الله أكبر. ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تبارك وتعالى مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تبارك وتعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبد ما سأل وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل الله أكبر وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه خلي الحديث الحاصل c'est un hadith qui est dans Sahih Muslim dans le livre de l'imam Muslim le hadith 365 le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est un hadith d'Abu Huraira le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah azza wa jalla a dit c'est pour cela que cela s'appelle un hadith aussi, un hadith divin c'est à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit, mais ce n'est pas dans le Coran. Comme certains savants l'ont expliqué, c'est que le hadith divin, c'est la parole d'Allah, mais avec les mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le Coran, c'est la parole d'Allah avec les mots qu'Allah Azza wa Jalla a utilisés. C'est un des avis. Il y a une grande divergence dans le hadith Qudusi, sa définition. D'accord ? Ça, on étudie dans le Mustalah al-Hadith et dans le Usul Fiqh. Dans ces deux sujets, Mustalah al-Hadith, lorsque tu apprends la terminologie du Hadith, ça c'est une science qui est très importante, connaître la différence entre Hadith Sahih, Hadith Da'if, etc. Et dans les bases du Fiqh. Allah Azza wa Jalla dit, j'ai divisé la prière en deux. J'ai divisé la prière en deux, entre moi et entre mon serviteur. Allah Azza wa Jalla, il a divisé la prière en deux parties. Une partie pour lui et une partie pour son serviteur. Lorsque mon serviteur dit Alhamdulillah Rabbil Alami, la louange est à Allah, Seigneur de l'univers. Allah Azza wa Jalla, il répond. Lorsque dans ta salat, tu dis Alhamdulillah Rabbil Alami, Allah Azza wa Jalla, il répond. Et il dit, mon serviteur m'a loué. Lorsque tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, il dit, mon serviteur m'a glorifié. Lorsque tu dis Malik Yawm al-Din, Allah Azza wa Jalla répond, et il dit, mon serviteur m'a honoré. Lorsque tu dis Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, c'est pour celle que nous adorons, c'est pour celle dont nous implorons le secours, il dit, ceci est entre moi et mon serviteur. Et mon serviteur a ce qu'il demande. Iyyaka nasta'in. Tu vois, tu réfléchis. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tu glorifies Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tu loues Allah. Malik Yawm al-Din. Tu honores Allah. Iyyaka na'budu. Regardez, trois versets et la moitié. Iyyaka na'budu. Et même lettre par lettre, c'est le milieu. Iyyaka na'budu. Tu loues, tu glorifies Allah. Wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Et c'est toi seul dont nous appelons le secours. Donc tu demandes des choses. Et tout le reste c'est pour toi. Donc une partie où tu glorifies Allah, une partie où tu demandes des invocations pour toi. Et tout ça c'est une invocation. Et ça aussi c'est une preuve que le premier verset de la Fatiha, c'est Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ils prennent ça comme parmi les plus grandes preuves de cet avis, qui est l'avis le plus fort, c'est ce hadith. Lorsque mon serviteur dit « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » Allah tabaraka wa ta'ala dit « Ceci est entre moi et mon serviteur a ce qu'il demande. » Lorsque mon serviteur dit « Ihdina sirat al-mustaqim » « Guide-nous vers le droit chemin »« Sirat al-ladhina an'amta alayhim » Le chemin de ceux que tu as comblé de tes faveurs « Ghayr al-maghdoubi alayhim wa al-dallin » Nom de ceux qui ont couru ta colère et nom de ceux des égarés. Lorsque le serviteur dit ça, Allah tabaraka wa ta'ala dit ceci est pour mon serviteur. Ceci est pour mon serviteur et mon serviteur a ce qu'il demande. Ce hadith, rappelle-le-toi à chaque raka'at. À chaque raka'at, rappelle-toi qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il t'entend, il t'écoute, il te voit, il te surveille, il te répond. Il te répond à toi. Il te répond, il ne répond pas à quelqu'un d'autre, à toi. Combien de fois par jour? 17 fois par jour. Regardez le lien qu'on a envers Allah, azzawajal. Regardez la prière. Regardez la Fatiha. Regardez la Fatiha, subhanallah. Donc on reprend notre raisonnement. Allah azzawajal, il nous dit, inna salah tanha anil fahsha'i wal munkar. Certes, la prière préserve des turpitudes et du blâmard. Et on a dit, certaines personnes, elles prient, mais elles continuent leur péché. Il y a où le problème? Le cheikh, hafidhallah, il ramène ce hadith. Qasamtu salat bayni wa bayna abdi nisfayn. Qui peut me trouver le lien entre ce hadith, le verset qu'on a cité, ce hadith, et surat al-Fatiha? Parce qu'Allah Azza wa Jalla parle de la prière ici. C'est quoi le lien entre ce hadith et surat al-Fatiha? Qui a trouvé? Regardez le début du hadith. Qasamtu salat. Ma hiya salat huna? Ma hiya salat? Huna, samma Allah tabaraka wa ta'ala surat al-Fatiha, surat al-Fatiha, bis salat. Fahuna, as-salat, al-maqsoud, surat al-Fatiha. Faman yata'amman. ويتدبر عن هذه الصورة المباركة تبعده من المعاصي وتبعده من الآثام. Ici le lien c'est quoi? Regardez le début du hadith. J'ai divisé la prière en deux, entre moi et mon serviteur. À la suite du hadith, Allah Azza wa Jalla parle de quoi? De quelle sourate? C'est la Fatiha qui est divisée en deux. C'est-à-dire qu'ici, Allah tabaraka wa ta'ala a appelé surat al-Fatiha comment? La salat. Une seule surat, elle a été appelée la salat. Pourquoi? Parce que c'est le pilier le plus important de la prière. Comme quand le professeur s'est dit, al-hajj arafa. Le hajj c'est arafa. C'est pas dire que le hajj tu fais que arafa et tu rentres chez toi. Non, le hajj c'est 6 jours ou 5 jours. On peut partir un jour avant. 5 jours ou 6 jours. C'est pas que un jour. Mais pourquoi le professeur lui a dit le hajj c'est arafa? Parce que le pilier le plus important du hajj c'est arafa. Et si tu fais pas arafa, t'as pas de hajj. Le professeur s'est dit ad-du'a huwa al-ibada. La vocation c'est l'adoration. Est-ce que la vocation c'est la seule manière qu'on a pour adorer Allah? Non. C'est pas la seule manière qu'on a. Mais parce que la vocation fait partie des plus grandes des adorations d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ici, Allah Azza wa Jalla l'a appelé surat al-Fatiha, la prière. Ce n'est pas dire que tu pries, tu fais que la Fatiha, non. Mais ça veut dire que le pilier le plus important, c'est la prière. Maintenant, on revient au verset. Inna salatan ha'anil fahsha'i wal munkar. Certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmage. Ici, les savants, ils te disent que toute personne qui médite et qui comprend surat al-Fatiha, cela va lui faire écarter des péchés. Cela va lui faire éloigner des péchés. Celui qui invoque autre qu'Allah, quand il réfléchit à l'Iyakana Abudu, est-ce qu'il peut encore lever ses mains pour autre qu'Allah? Celui qui égorge pour autre qu'Allah, lorsqu'il entend Iyakana Abudu, est-ce qu'il peut encore égorger pour autre qu'Allah? Celui qui fait un vœu pieux pour autre qu'Allah, est-ce que lorsqu'il dit Iyakana Abudu, il peut encore faire cela? Celui qui commet des péchés et qui entend et qui répète même et qui est au midi, le maître du jour de la résurrection, du jour de la rétribution, et qui va réfléchir, comme on le verra, inshallah, dans la leçon d'après, que ce verset nous indique et nous appelle à quoi? À méditer sur le jour de la résurrection. Maliki yawm al-din, le maître du jour de la rétribution. C'est-à-dire que dans le mot din, Allah tabaraka wa ta'ala parmi ses noms, c'est ad-dayyan, celui qui va rétribuer les gens. Quand tu dis maliki yawm al-din 17 fois par jour, tu dois prendre conscience que tu vas être debout devant Allah azza wa jalla pour répondre de ce que tu fais. Donc lorsque la personne, elle médite sur surat al-Fatiha, automatiquement cela va te préserver contre les blâmes et les turpitudes. Si toi tu étais prêt ce soir après l'Isha, tu étais prêt à commettre un péché et tu prends conscience de cette surat, de surat al-Fatiha, de ses sens, ça va te pousser à arrêter ton péché. Si toi, tu dis, je vais saler et je vais faire mon péché, et dans ta salat, tu prends conscience, rien que dans la Fatiha. Parce que si, Inch'Allah, un jour, on a l'occasion de faire les mêmes cours, mais d'expliquer la prière, d'expliquer les gestes de la prière, Wallahi, les frères, les gestes de la prière ne sont pas anodins. Je ne vais pas rentrer pour pas, mais juste une petite lancée. Le recours, quand on est en recours, le recours, il nous indique quoi? Le recours, il nous indique la mort. Comment? Lorsqu'on médite dans le Coran, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il parle des versets, de l'agonie, dans Salat al-Waqi'a, lorsqu'il parle des « Iza balagat al-hulqum wa hakadha wa al-ayat » lorsqu'Allah Azza wa Jalla parle des versets de l'agonie, à la fin, qu'est-ce qu'il dit? « Fasabbih bismi rabbikal azim » Quand tu es en recours, qu'est-ce que tu dis? « Subhan rabbi al-azim » Les savants, ils te disent, parce que le recours, ils te disent le qiyam de la salat. Quand tu dis la fatiha, « Wa qumu lillahi qanitin » Allah Azza wa Jalla nous dit que dans cette vie, on se tient debout pour l'adoration d'Allah. Donc ils disent que le premier qiyam, c'est ta vie. Le recours, elle monte, c'est la mort. Ensuite, qu'est-ce que tu fais dans une seule rak'a? Tu fais quoi? Tu te relèves. Yom al-qiyama, tu vas te relever. Et ensuite, la partie la plus noble de ton corps, tu la mets à la partie la plus basse que tu peux. Et qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Subhana rabbi al-a'la. Toi, tu es la partie la plus haute et la plus noble de ton corps. Tu la mets à la partie la plus basse de cette terre et tu dis Subhana rabbi al-a'la. Allah Azza wa Jalla, c'est le très haut. Gloire et pureté à mon Seigneur, le très haut, etc. etc. C'est-à-dire que quand on réfléchit même au secret de la prière, mais là, on s'arrête que à la Fatiha. Rien que si la personne dans sa raka'at, elle se concentre sur la Fatiha, automatiquement cela va être une cause que cela va t'éloigner des péchés. Est-ce que c'est compris le raisonnement? C'est clair? فسمى الفاتحة صلاة لكن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي تلك الصلاة التي تتدبر الإنسان فيها ويتفكر ويتأمل في كلام الله تبارك وتعالى ولا سيما في هذه السورة العظيمة التي هو ركن عظيم من أركان الصلاة فإنها تهدي العبد بإذن الله تبارك وتعالى إلى صراط الله المستقيم. Donc j'ai devancé ici la parole. Donc le cheikh, il termine par cela en disant, certes la prière préserve le serviteur des blâmables et des turpitudes. Il dit, mais c'est pas n'importe quelle prière, c'est une prière qui est faite avec méditation. C'est une prière lorsque tu médites sur l'importance de ta prière, lorsque tu médites sur l'essence des paroles que tu dis dans ta prière, lorsque tu médites sur cela, ta prière va être une cause que ça va te préserver des blâmables et des turpitudes. Et il dit, et encore plus cette sourate, et encore plus cette sourate, qui est le pilier le plus important de la prière. C'est-à-dire que lorsque tu médites sur sourate al-Fatiha, tu auras encore plus d'impact. وَإِذَا كَانَ الْمُؤْمِنُ يَقْرَأُ كُلَّ يَوْمٍ مُتَدَبِّرًا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ حَدَثَتْهُ نَفْسُهُ بالخروج عنها بالشهوة أو بلذة أو بفعل محرم فإنه سيمتنع ويكون مع نفسه بمجاهدة. من هو؟ هو الذي يتدبر ويتفكر بهذه السورة العظيمة وبهذه الصلاة المباركة، هو الذي يفعل هذا. إذا حدثته نفسه بفعل محرم فسيمتنعها بالوقوع فيها أو بالوقوع فيه، يعني في هذا الفعل. Donc lorsque la personne, tous les jours au minimum 17 fois par jour, il répète et il réfléchit sur Ihdina Sirat al-Mustaqim, guide-moi vers le prochain. Toute personne qui va réfléchir et qui va penser, qui va méditer sur ce verset. Et ensuite, son nefs l'appelle à commettre un péché. Son nefs l'appelle à sortir de ce chemin. Mais lui, il a réfléchi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va combattre avec son nefs. C'est un combat. Et c'est comme ça que tu arrives à combattre contre Shaitan. C'est comme ça que tu arrives à combattre contre ton nefs à toi. Ton nefs, Est-ce ton œuvre ce qui t'appelle au mal? Comment tu fais pour la combattre? C'est en réfléchissant sur l'idée d'un salat al-mustaqim. Comment tu viens de dire dans ta salat 4 fois dans le vol ou dans l'Isha ou dans l'Asar ou 3 fois dans le Maghreb, ihdina salat al-mustaqim? Tu viens de dire ihdina salat al-mustaqim et juste après la salat, tu vas faire quelque chose qui va te faire sortir du salat al-mustaqim. Là, tu vas être en combat avec ton œuvre. Et c'est comme ça que tu vas réussir à t'écarter et à t'éloigner des péchés. Mais celui qui ne médite ni sur sa salat, ni sur sa fatiha, ni il ne médite sur rien. Il prie et sa prière c'est simplement un lieu de pointage. Il prie, là j'ai prié. Ni il vérifie l'heure, ni il vérifie si. Il a prié avec les piliers, avec les conditions, avec les obligations, avec les sunnahs, ni rien du tout. Il prie, là j'ai prié, j'ai fait mon obligation. Comme si Allah Azza wa Jalla il a besoin de notre prière. Comme si Allah Azza wa Jalla il a besoin de notre prière. Allah Tabaraka wa Ta'ala il n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de moi, il n'a besoin de personne. Huwa al-Ghani. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il n'a besoin de personne, il se suffit à lui-même. Si tu pries, concentre-toi parce que la prière, elle a un impact pour toi. La prière, elle a un impact et une influence pour toi. Mais ta prière que tu viens de faire, elle, ni elle va causer du bien, ni elle ne va causer du tort à qui que ce soit. Mais pour toi, cette prière, elle a un impact. Donc pour certaines personnes qui pensent que parce qu'elles prient, ça y est, moi, il faut me laisser tranquille. Moi, je prie, c'est déjà bien. A'udhu billah. Ça, c'est des paroles. Wallah, on s'en rend pas compte. C'est des paroles qu'on entend à l'intérieur de nos maisons. On entend, c'est des paroles qui sont devenues normales. Et des fois, on laisse. Ah, c'est vrai, il prie. Inch'Allah, ben, c'est bien. Déjà, il prie. Comme si, j'ai déjà fait ça pour Allah, c'est bon. Subhanallah al-Azim. Allah Azza wa Jalla, il n'y a pas besoin de toi. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Regardez sur notre Fatiha, comment elle répond à ces gens-là. Iyaka nasta'in. C'est toi ça dont nous appelons le secours. Lorsque tu dis ça, tu te remets. Tu te remets à zéro, même à moins un, en disant j'ai besoin totalement d'Allah. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, n'a besoin de personne. Parce que toutes les créatures lui demandent ce qu'elles ont besoin. Donc lorsque tu prends conscience que toutes les créatures lui demandent ce qu'elles ont besoin, c'est qu'il n'a besoin de personne. Et que tout le monde a besoin de lui. Donc voilà comment la prière est une cause d'éloigner les gens des péchés. وسيحرص على أقرها ومنعها وردها عن الدخول فيما حرم الله تبارك وتعالى أو عن الخروج عن صراطه المستقيم عملا بقوله تعالى والذين جاهدوا فينا اهدنا صراط المستقيم والذين جاهدوا فينا الله تبارك وتعالى je termine en arabe et je traduis wa inna allaha la ma'a al muhsinin wa inna allaha tabaraka wa ta'ala la ma'a al muhsinin. Donc lorsque la personne elle va méditer sur sourate al fatiha et lorsque son nefs, son âme va l'appeler à commettre un péché, à commettre une désobéissance ou à commettre un acte qui va le faire sortir du droit chemin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte de rejeter ça, de combattre son nafs. Et regardez ce combat. Si tu médites sur Surat al-Fatiha, on a dit que cela va avoir une influence sur toi, c'est que tu vas combattre ton nafs. Et bien une fois que tu atteindras ce niveau de combattre ton nafs et que tu ne te laisses pas aller dans tous les péchés qui viennent, tu vas atteindre ce niveau de combattre ce nafs. Et pour atteindre ce niveau, qu'est-ce qu'on doit faire? Méditer sur Surat al-Fatiha et la comprendre. Lorsque tu atteins ce niveau, eh bien, on va lire le verset. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset, quant à ceux qui luttent pour notre cause, quant à ceux qui luttent contre leurs âmes, pourquoi tu ne fais pas ce péché? Alors que tu pourrais le faire dans cette vie, c'est normal. Pourquoi tu ne le fais pas? Pour Allah Azza wa Jalla. Donc si tu combats ton nafs pour Allah tabaraka wa ta'ala, pour rester dans le chemin, regardez ce qu'Allah Azza wa Jalla donne comme récompense à ces gens-là. Nous les guiderons, certes, sur nos sentiers. Toi, tu réfléchis à Salat al-Fatiha, tu réfléchis à Ihdina Salat al-Mustaqim, tu combats ton nefs pour ne pas tomber dans le péché, c'est quoi ta récompense? C'est qu'Allah Azza wa Jalla te guide vers le droit chemin. Tu réfléchis sur guide-nous vers le droit chemin, tu combats ton nefs, Allah Azza wa Jalla te guide vers le droit chemin. Nous le guiderons vers nos sentiers, et Allah Azza wa Jalla est en vérité avec les bienfaisants. والمعاصي التي نهى الله عباده عنها على قسمين كبائر وصغائر وقال الله تبارك وتعالى وكل صغير وكبير مستطر ليس وكل كبير مستطر وافعلوا ما شئتم مع الصغائر حاشا وكذا وكل صغير وكبير مستطر أي مكتوب على العبد سبحان الله العظيم كل صغير وكل كبير مكتوب على العبد حتى يلقى الله تبارك وتعالى أو حتى يلقاه الله تبارك وتعالى أو حتى يلقى الله تبارك وتعالى سبحان الله العظيم إيه لبشي وسيلقاه في موازين سيئاته يوم القيامة أعاذنا الله وإياكم les péchés qu'Allah Azzawajal a interdits sont de deux sortes. Il y a des grands et des petits. Il ne faut pas penser que les péchés qu'Allah Azzawajal a interdits, ce ne sont que les grands. Non. Les péchés qu'Allah Azzawajal a interdits, ce sont les grands et les petits. Et Allah Azzawajal dans le Coran, dans le sens du verset, il dit « Wa kullu sariri » et tout petit péché. « Wa kabiri » et tout grand péché « mustatar » sera consigné, sera écrit pour le serviteur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ce péché va être écrit? Jusqu'à ce que tu vas rencontrer Allah dans la terre. Et ce péché que tu as commis, toi tu vas l'oublier. Peut-être tu t'en rends même pas compte que tu commets un péché parce que c'est devenu normal. Ce péché que tu as commis, il sera inscrit dans ton registre des péchés. Kayom al-Qiyama, lorsque le mawazin, lorsque les balances vont être posées, on mettra tes registres de bonnes actions dans une kiffa, dans un plateau, et le registre des péchés dans une kiffa. Et bien lorsque tu penses à ça, et penses que ce que tu viens de faire, il est là, dans cette kiffa-là, dans ce plateau-là. Allah Azza wa Jalla dit « Wa kullu sagirin wa kabirin » et que tous les petits péchés ou les grands péchés sont consignés. ولهذا قال في الآية الأخرى ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans un autre verset dans Surat Al-Kahf, le verset 49, Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset, en parlant des gens qui vont voir les péchés qu'ils ont, les gens qui vont voir leur livre devant eux. Qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront malheur à nous. Malheur à nous. Qu'a donc ce livre à nos maîtres de m'enseigner? Qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner? Ni petit péché et ni grand péché. Et ils trouveront tous devant ils trouveront devant tout ce qu'ils ont fait, devant tout ce qu'ils ont œuvré. Ils trouveront tout. Ils se trouveront devant tout ce qu'ils ont fait. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Allah Azza wa Jalla ne fait du tort, n'est injuste envers personne. Fallahu Jalla wa Ala ahsa dhalika kullah. الله تبارك وتعالى أحصى ذلك كله كما قال الله تبارك وتعالى وهذه الآية أحصاه الله ونسوه أحصاه الله ونسوه فهم نسوا ما فعلوا لكن الله تبارك وتعالى لا ينسى أحصى الله تبارك وتعالى أحصاه الله ونسوه فاللذة المحرمة تفنى وتنتهي في وقتها ولكن الذي يبقى عواقبها كما قيل تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار ويبقى الإثم والعار تبقى عوائق تبقى عواقب سوء من مغبتها لا خير في لذة بعدها نار لا خير في لذة تنتهي في وقتها لا خير فيها وبعدها ماذا بعدها نار الله المستعان وبعدها النار يا الله تبارك وتعالى وزمر بغسي انتي احصاه الله ونسى le péché que tu as fait. Allah Azza wa Jalla l'a dénombré, l'a inscrit, l'a écrit, et toi tu l'as oublié. Allah Azza wa Jalla l'a dénombré, et eux ils l'ont oublié. Au jour d'aujourd'hui, on te demande d'écrire sur une liste les péchés que tu as fait dans la semaine. Dans la semaine. Alors, pendant que moi j'ai pas fait de péché, on tout oublie. T'oublies ce que tu as fait. Que dire d'une vie? Sur une vie. Et est-ce que tous ces péchés, tu as demandé le pardon? Toi, tu as commis des péchés et tu les as oubliés. Mais Allah Azza wa Jalla les a écrits et les a dénombrés. Subhanallah. L'importance de l'istighfar. L'importance de ton temps, se repentir. Allah Azza wa Jal, comme on l'a dit au début du cours, il veut accueillir ton repentir. Et si tu te repens, tout y est effacé. Tout ce que tu as fait, si ça, c'est pas beau de s'en rendre compte alors que tu es encore vivant. Parce que ça, c'est sûr qu'on va s'en rendre compte le jour de notre mort. Ce qu'on appelle ilmul yaqin, la science de la certitude. Lorsque tu vas voir les anges arriver vers toi, là, tu vas être. Mais ce sera trop tard. C'est maintenant. Maintenant, subhanallah, quel plus beau cadeau qu'Allah Azza wa Jalla peut nous donner. Que maintenant tu prends conscience que tu as des péchés, que tu as oublié, mais qu'Allah il les a écrits. Ben, prends conscience que si tu fais tauba, si tu demandes à Allah Azza wa Jalla de pardonner, et si tu. Allez, ahsin ma baqa, yughfar ma mada, wa yughfar min man baqa. Comme il s'est parlé, Hassan al-Basri. Lorsqu'un homme est venu le voir, et l'homme y avait très âgé. Et il lui a dit, t'as quel âge? Il lui a dit, t'as quel âge? Et il a parlé avec lui, l'homme lui a dit, j'ai plus de 80 ans. Il lui a dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hassan Basri lui a dit, est-ce que tu es au courant de ce que ça veut dire, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un? Et il a commencé à lui expliquer ce que ça veut dire, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inch'Allah, un jour, on fera une khutbah sur Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, parce que c'est très important de comprendre cette parole et savoir à quel moment on l'a dit. Bi'idhnillah, on la fera, Inch'Allah, si Allah Azza wa Jalla nous le permet. Et l'homme, quand il prend conscience de la vie qu'il a commis et qu'il n'avait rien fait, quasiment comme œuvre, il a dit à Hassan Basri, il a dit Mal amal, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit Ahsin fima baqa. Ahsin fima baqa. Sois bienfaisant dans ce qui te reste à vivre. Yughfar ma mada. Tout ce qui s'est passé sera effacé. Wa yu'khadh min ma baqa. Et seulement ce qu'il te restera sera comptabilisé. Mais il lui a dit wa in lam tahsin ma baqa yu'khadh ma mada wa ma baqa. Aw kama qala. Dans le sens de la parole, je n'ai pas dit exactement comme ça, mais il dit mais si tu ne prends pas considération, tu ne prends pas conscience de cela, et tu continues, tu ne sois pas bienfaisant dans ce qui te reste à vivre, on te prendra et on te jugera sur ce que tu as fait et sur ce que tu vas faire. Donc là, au jour d'aujourd'hui, on est dans la même situation. On a une vie avant aujourd'hui, une vie après. Tu as le choix. Si à partir de maintenant, tu fais du rêve dans tout ce qu'il y a, tout ce que tu as fait est effacé et tu seras jugé que sur la fin. Mais c'est ça le but, c'est ça qu'on cherche. Par contre, si tu continues et tu restes comme tu es, Allah Azza wa Jalla te jugera sur ce qui s'est passé et sur ce qui va se passer. Donc on reprend. Allah Azza wa Jalla a dénombré tes péchés et toi tu les as oubliés. Et lorsque tu réfléchis aux péchés, prends n'importe quel péché. Lorsque tu réfléchis au péché, tu réfléchis à la fornication. Ce péché horrible. Ce plaisir, cette jouissance, elle s'arrête quand? Elle s'arrête au moment de... Dès que tu as terminé, ça s'arrête. Quelques secondes, et tu prends tous les péchés, c'est la même chose. C'est-à-dire que le péché, le plaisir qui t'a poussé à faire ce péché, il s'arrête, il ne dure que quelques secondes, quelques minutes. Par contre, donc le plaisir, il est parti. Là, pour la plupart de toi, tu es même dégoûté, tu pleures, tu regrettes ce que tu as fait. Mais qu'est-ce qui reste? Le péché, il reste. Il reste jusqu'à quand? Jusqu'à Yom al-Qiyamah. Et tu prends ça pour le mensonge. Tu parles avec quelqu'un, tu mens. Alors là, c'est accru. Il t'a cru. Et après, lui oublie ce que tu as dit, il ne se souvient même plus d'eux. Il ne se souvient même plus de ce que, de quoi vous avez parlé. Mais toi, ton mensonge, il va rester jusqu'à Yom al-Qiyamah. La médisance. Tu viens, tu parles sur l'honneur de ton frère. Tu parles sur le dos de quelqu'un. À la personne à qui tu as parlé, peut-être qu'il ne va même plus s'en souvenir de ce que tu as dit. Mais ce que tu as dit, ça va rester jusqu'à Yom al-Qiyamah. L'ostentation. Tu vas faire l'ostentation, tu vas prier parce que quelqu'un y rentre, tu vas bien réciter le Coran parce que quelqu'un y t'entend. Toi, tu vas faire ce péché alors que peut-être la personne, en fait, elle ne te regarde même pas. Subhanallah, même si la personne, elle t'a vu, elle va t'oublier, là, ça va passer à quelque chose d'autre. Mais juste, Yom al-Qiyamah, ça reste. Et regardez, le poète, le poème qui est cité. Donc la traduction d'un poème, ce n'est pas ma spécialité. Donc on va traduire le sens global. Il dit « Tafna al-ladhadha mimman nala safwataha min al-haram wa yabqa al-ithmu wal-haram. » Les plaisirs que tu as sélectionnés, parce que l'être humain, quand il fait dans des péchés, il ne fait pas n'importe quel péché, il sélectionne les plaisirs et les péchés. Il sélectionne ce qu'il va faire. Le plaisir de ceux que tu as sélectionnés comme péché disparaissent. Le plaisir, il disparaît en quelques secondes, en quelques minutes. Mais seuls les mauvais résultats, mais seules les mauvaises fins de ce péché, les mauvais résultats de ce péché vont rester. تبقى عواقب سوء مما ربتها لا خير في لذة من بعدها نار ومن بعدها النار. عفوا j'ai inversé. Les plaisirs de ceux que tu as, les plaisirs de ceux qu'Allah Azza wa Jalla interdit et de ceux que tu as sélectionnés partent. C'est bon. Seul le péché et la honte restent. Seul le péché et la honte restent. Quand tu regardes ton péché, tu as commis la fornication. Qu'est-ce qui reste de cette fornication? Le péché qui est inscrit et la honte. La honte sur toi. Quand tu mens, et quelqu'un te regarde et dit, mais c'est pas là, t'as menti. Ton péché, il reste et il te reste la honte. Tabqa awaqib as-su'i min marabbatiha. Mais leur mauvaise fin, ce sont là le résultat qui va rester. C'est la mauvaise fin de ce péché, qui est le péché et la honte qui va rester. La khayra fi ladha min ba'diha an-nar. Il n'y a aucun bien, il n'y a aucun khayr dans un plaisir qui est suivi par le feu de l'enfer. Il n'y a aucun bien dans ça. Quelle jouissance tu peux prendre dans une chose qui va te ramener en enfer? Il n'y a aucun bien, il n'y a aucun plaisir à avoir dans cela. Wa yaqulu ahad as-salaf inni la adhnibu dhanba inni la adhnibu dhanba fa ara dhalika fi khuluq zawjati wa fi khuluq dabbati. Un parmi les purs prédécesseurs disait, lorsque je commets un péché, je vois le résultat de ce péché dans le comportement de ma femme. Et je vois le résultat de ce péché dans le comportement de ma monture. C'est-à-dire que parmi les résultats des péchés, c'est qu'Allah Azza wa Jal te fait vivre une hayat dhanka, te fait vivre une vie de étroite, une vie difficile. À cause de tes péchés, Allah Azza wa Jalla va te punir dans ta femme. Allah Azza wa Jalla va te punir dans tes enfants. Allah Azza wa Jalla va te punir dans ton risque. Allah Azza wa Jalla va te punir dans ta vie. Regarde là ce qui reste de ce péché. Wal'iyadu billah. فهذه من الأمور التي في الدنيا أما التي في الآخرة فهي أعظم وأخطر والله جل وعلا مدح عباده المؤمنين باجتناب الكبائر وعدم الوقوع فيها Et ce que l'on a cité, ce sont simplement des choses qui vont se passer dans cette vie. Mais lorsque l'on parle de l'au-delà, lorsque l'on parle du résultat de ce péché, yawm al-qiyamah, au jour de la résurrection, cela est encore plus dangereux et cela est encore plus grand. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, dans beaucoup de versets du Coran, il a vanté ses serviteurs. Mais pas n'importe quel serviteur. Allah, azza wa jalla, il a vanté les serviteurs qui font l'effort de s'écarter des grands péchés. Donc, c'est comme on a dit tout à l'heure, le mujahid, la guerre que tu as entre toi et ton nefs, c'est ce jihad al-nafs que tu dois avoir sur toi. Si tu es comme cela, Allah Azza wa Jalla, tu vas rentrer dans les compliments qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fait à l'éloge et à l'égard de ses serviteurs. À titre d'exemple, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمام إن ربك واسع المغفرة وقوله تبارك وتعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون وقوله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما الجنة. À ce titre d'exemple, Allah Azza wa Jalla cite dans le sens du verset ceux qui évitent les grands péchés. Allah Azza wa Jalla, il complimente ceux qui évitent les grands péchés ainsi que les turpitudes et qui commettent des fautes légères. Certes, le pardon de ton Seigneur est immense. Dans un autre verset, ceux qui évitent les grands péchés ainsi que les turpitudes et qui pardonnent après cette mise en colère. Dans un autre verset, si vous évitez les grands péchés qu'Allah Azza wa Jalla vous a interdit, nous vous effacerons vos péchés. Si tu évites les grands péchés, Allah Azza wa Jalla, il t'efface tes péchés de ton compte. Ton compte, ce péché n'existera plus. Il ne sera pas inscrit. Allah Azza wa Jalla, il te l'efface. Wa nukaffir ankum sayyi'atikum. Et nous effaçons vos péchés de votre compte. Wa nudkhilukum mudkhalan karima. Et nous vous ferons entrer dans l'endroit honorable, qui est le paradis. Donc Allah Azza wa Jalla, il nous explique, il nous donne, il nous dit que celui qui fait l'effort de s'écarter des grands péchés, Allah Azza wa Jalla va te pardonner tes péchés et te faire rentrer au paradis. ولهذا يحتاج السائر على صراط الله المستقيم إلى أن يكون على علم ومعرفة بالكبائر لأجل الحذر منها فيعرف الكبيرة والعقوبة المترتبة على فعلها والآيات والأحاديث الواردة في التحذير منها فإن هذا العلم بإذن الله تبارك وتعالى يهديك إلى مجانبتها وعدم الوقوع فيها كيف تتقي من لا يدري ما يتقي. Donc il est très important et obligatoire pour celui qui emprunte ce droit chemin, de connaître les péchés. Si tu ne connais pas les péchés, si tu ne sais pas que cela est un péché, comment tu ne peux pas tomber dedans? Donc tu te dois de connaître les péchés. Tu te dois de connaître la différence entre les grands péchés et les petits péchés. tu te dois de connaître la punition qu'Allah Azzawajal a réservée pour celui qui commet ce péché. Parce que c'est facile de dire, ah, je sais que la fornication c'est haram, mais c'est dur. Ah, c'est dur. Lorsque tu vas comprendre la punition qu'Allah Azzawajal a donnée à ceux qui forniquent, le mensonge, ah, je sais que c'est haram, mais c'est, j'ai l'habitude. Ah, ok. Mais lorsque tu vas connaître la punition qu'Allah Azzawajal réserve aux menteurs, le châtiment de la tombe qui est réservé et que certains menteurs subissent, alors que nous, on est encore vivants, certains menteurs, certains fornicateurs, certains voleurs, certains yani calomniateurs, certaines personnes qui ont commis des péchés. Au moment où on est en train de parler, au moment où on est en train de respirer, ils sont en train d'être châtiés dans la tombe. Parce que sachez que le châtiment de la tombe se divise en deux. Un châtiment qui ne s'arrêtera jamais. Et cela, c'est pour ceux dont l'enfer est éternel. Parmi les mécréants, les polythéistes, etc., eux, l'enfer est l'éternel. Donc le châtiment de la tombe ne s'arrêtera jamais. Mais il y a un châtiment de la tombe qui peut s'arrêter. C'est celui des pécheurs. C'est celui des pécheurs. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est pas dire, ah ben ça va, au moins il va s'arrêter. Non. Ça veut dire que même que tu es musulman, même que tu dis la ilaha illallah, même que tu viens faire tes 5 prières ici à la mosquée, même que tu as une barre, même que tu as une khamis, même, c'est pas pour ça que tu es préservé du châtiment de la tombe. Et peut-être que les péchés que tu commets, ce sont une cause que tu vas être châtié dans ta tombe. Tu vas être châtié dans ta tombe. Donc il est obligatoire que la personne qui emprunte ce chemin droit prenne conscience qu'il connaisse les péchés, qu'il connaisse la punition qu'Allah tabaraka wa ta'ala a réservée pour ses péchés et qu'il connaisse les versets qu'Allah azza wa jalla des révélés sur cela. Et qu'ils connaissent les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué cela. Ben, la personne va dire, mais comment je vais faire pour connaître les péchés, connaître les punitions, connaître les versets et connaître les hadiths? Et bien les savants, ils ont fait le travail pour toi. Les savants, ils ont fait le travail pour toi. Parmi les plus beaux livres que le musulman peut avoir dans sa vie, c'est le livre de l'imam al-Dhahabi, les 40 grands péchés, il est traduit en français, il s'achète partout. Celui-même qui veut, il note son numéro de téléphone, je l'envoie ce soir, sur son téléphone, il peut le lire ce soir. En une lecture, tu l'as terminé. Il est très simple. En une lecture, tu l'as terminé. L'imam al-Dhahabi, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a recensé les grands péchés qu'il a trouvés dans le Coran et dans la Sunna du prophète alayhi salam. Et il a mis le grand péché et les a classés par ordre de gravité. Le premier, c'est le chiffre. Le deuxième, c'est tuer une âme innocente. Le troisième, c'est la sorcellerie. Et il fait. Donc toi, tu as le péché. Tu as le verset et le hadith qui parle de ce péché et la punition sur cela. Ce verset, ce livre, il va être d'une utilité énorme. والمؤلفات في هذا الباب كثيرة وإن من أحسنها كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى وقد أحسن فيه وأفاد مؤلفه رحمه الله وعرض الكبائر وعلق تعليقات نفيسة جدا يحتاج إليها كل مسلم وذكر رحمه الله في الكتاب قول ابن عباس رضي الله عنه هذا مهم جدا ابن عباس رضي الله عنه سئل عن عدد الكبائر سئل عن عدد الكبائر أهي سبع سأل سائل ابن عباس رضي الله عنه أهي سبع الكبائر سبع قال رضي الله عنه هي إلى السبعين أقرب هي إلى السبعين أقرب وقال الذهبي رحمه الله في كتابه وصدق والله ابن عباس لأن الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى على عباده وتوعدهم على فعلها وهددهم إذا وقعوا فيها كثيرة ليست سبعة وليست عشرة وليست عشرين ثم أخذ يعدد في كتابه الكبائر ما يزيد على السبعين كبيرة.
Et ce livre, il est exceptionnel. Ce livre, il est magnifique. C'est exactement celui-là. C'est exactement ce qu'il y a en un clic. Et tu vas voir, en une lecture, ça, il se finit. Bien sûr, il faut lire tout le temps. Mais en une lecture, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est faisable pour tout le monde. En un clic, le livre, tu l'as dans ton téléphone. Pour quelle époque nous sommes? Si avec ça, on n'apprend pas notre religion, comment on va faire? Dans son livre, qui fait partie des... Il y a beaucoup de livres qui ont été édités sur cela, mais ce livre-là, il fait partie des livres les plus importants qui ont été édités dans cela. Il a ramené la parole d'Ibn Abbas. Ibn Abbas, radiallahu anhu, a été questionné. Ils lui ont posé la question, ils lui ont dit, est-ce que les grands péchés sont de sept? C'est les hadiths, non? Ijtanibou sab'al mubiqat. Donc le prophète Sam, il dit, écartez-vous des sept péchés capitaux, des sept grands péchés. Mais ce n'est pas dire, comme on l'avait cité au début, ce n'est pas dire que quand il y a un nombre dans le hadith, que c'est une restriction. Ils ont dit, est-ce que les grands péchés qu'Allah Azzawajal a interdits sont de sept? Il a dit, ils sont plus de 70. Ils sont plus de 70. Les grands péchés qu'Allah Azzawajal a interdits, ils sont plus de 70. Et l'imam Zahabi, lorsqu'il ramène cette parole, qu'est-ce qu'il dit? وصدق والله ابن عباس il dit ibn Abbas a dit vrai et il jure par Allah Azza wa Jalla qu'il a dit vrai. Et ensuite il fait aller la liste des grands péchés et la liste des grands péchés sont d'environ 70. Ça quel âge avait?
Ah c'est 58, je sais pas quelle heure semaine.
56. فنكتفي بهذا و ندرس بإذن الله غدا بين المغرب والعشاء إن شاء الله. Donc on continue le cours demain. On ne peut pas se quitter sur ça. Donc on voilà. Ah, comme ça demain, Inch'Allah, on termine le chapitre. Il y a encore une bonne heure et demie de. Si je tiens une heure et demie, ça va pas aller. Donc Inch'Allah, on continue demain entre le Maghreb et l'Isha. Ce passage qui est très important, c'est que lorsque la personne veut rester guidée sur le droit chemin, il se doit de s'écarter des grands péchés. Et le meilleur moyen pour s'écarter des grands péchés, c'est de méditer sur Sourate Al-Fatiha. Et le meilleur moyen pour s'écarter des grands péchés, c'est de lire le livre de l'imam Zahabi, Rahimallah Al-Kabir. Pour celui qui le veut, il me met son numéro de téléphone ou son email. Je lui envoie le livre, Inch'Allah, dès ce soir. Et on continue demain sur la gravité des grands péchés. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina al-karim Muhammad ibn Abdillah. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayk. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاك الله خيرا.
الله